L'université Paris 8, à l'image de son territoire, accueille plus de 140 nationalités. Sa bibliothèque universitaire, inspirée par le réseau de bibliothèques de pleine commune, explore cette diversité culturelle et linguistique en organisant la Semaine des langues maternelles, du 20 au 24 février 2023. La date de la Semaine des langues a été choisie en référence au 21 février, la Journée internationale de la langue maternelle proclamée par l'UNESCO en 1999. Ce même 21 février, en 1952, la police et l'armée de l'État pakistanais ouvraient le feu sur les manifestants, à Dhaka. Ces derniers luttaient pour leurs droits linguistiques, afin que le bengali soit nommé langue officielle dans ce qui était à l'époque le Pakistan oriental et qui est devenu le Bangladesh après la guerre de libération. Alors, au programme de cette émission, et pour fêter le multilinguisme, des ateliers de découverte des langues arabes et japonaises, des étudiantes qui partagent avec nous leurs relations aux langues, étrangères ou maternelles, un concert de berceuses venues d'ailleurs, des bibliothécaires qui nous livrent leurs mots ou expressions favorites dans leur langue maternelle, un blind test à la bibliothèque Gulliver à une quinzaine de minutes à pied de notre université, ainsi qu'un entretien avec Nadia Setti, professeure de littérature comparée et d'études de genre.
Quand on travaille sur un concept, ce n'est pas immédiatement le concept qui vient. On arrive à ces concepts par un parcours, qui est un parcours subjectif, personnel. Et les miens, effectivement, commencent ailleurs. Effectivement, comme on peut entendre d'ailleurs dans la façon dans laquelle je parle le français. Je parle en français avec un petit accent, mais ce petit accent... C'est peut-être une façon, par ma langue maternelle, l'italien, de rester, de m'accompagner quand même dans cette autre langue.
Nadia Setti a dirigé l'ouvrage collectif paru en 2022 sous le titre « Hypothèse d'une langue mère ». Dans ses recherches, elle explore notamment les ambiguïtés de ce que recouvrent les expressions de langue maternelle ou de langue étrangère.
Et en fait, c'est justement en passant la frontière, en venant donc de l'Italie vers la France, que j'ai... expérimenter à la fois cette expatriation, mais aussi ce rapport à la langue étrangère, à la langue l'autre, qui à petit devient une langue amie, une langue presque maternelle, mais qui est à la fois qui te reçoit et qu'on adopte. Et donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser très tôt à ces questions de langue, de langage, mais en même temps que je commençais à fréquenter des groupes de femmes, donc c'était dans les années 70, et que dans ces groupes de femmes, les questions de la langue, de quelle langue on parle, à l'époque, il était beaucoup question d'ailleurs de la langue du père, pas de la langue de la mère, de la langue du père, puisque tout le monde disait, mais finalement, nous sommes en quelque sorte dans un... colonisé, on dirait aujourd'hui, non? Puisque on ne parle pas une langue qui vient de nous, de notre propre élaboration, de nos corps, de nos subjectivités, non. On parle la langue du père ou la langue du patriarcat. Donc, quoi faire avec ça? Justement, puisque je m'interrogeais sur ce qu'était finalement, non pas seulement le sexe de la langue, mais aussi le sexe de l'écriture. Donc, je suis tombée un jour sur... j'étais déjà en Belgique, donc c'était mon première expérience de la langue, de l'autre langue. Et je vois que cette revue est consacrée à effectivement, au langage. Hein, et femme et langage, ça s'appelait comme ça. Donc, c'était exactement ce que je cherchais. Et là-dedans, il y avait un texte d'Hélène Sixou, « Le sexe ou la tête » ou il est question d'écriture, de langue, de quelle langue, justement, avec quelle langue on parle. Comment parler aussi avec des corps qui ne sont pas dominés ou appropriés par les langues du père. Voilà. Et donc, cela a inauguré tout mon parcours de recherche et d'interrogation, voilà, à travers aussi la lecture de beaucoup de textes d'Hélène Sixou. C'est quand même tout à fait étonnant, parce que déjà, j'étais transportée par une écriture absolument débordante, mais qui n'était pas dans la langue classique de la littérature française, qui était même toujours dans l'extraterritorialité. Et donc, c'est ça qui m'a séduit. Donc, c'est que c'était une autre langue. Et que cette langue osait aller très loin aussi dans l'exploration du corps, de la sexualité, du désir. Donc, c'était effectivement une ouverture extraordinaire. Donc, dire que je suis arrivée en France par le français tel qu'il est enseigné à l'école, c'est complètement aberrant, parce que ce n'était pas du tout mon parcours. Finalement, mon parcours commence par une interrogation de femmes et féministes. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de cette langue et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de cette langue ?
Bait al-Lughat yashkurukum. La maison des langues vous remercie.
Merci.
Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Moi, je parle français, anglais et arabe marocain, c'est le darija. Je parle, mais pas avec un niveau courant, le coréen et l'espagnol.
Moi, je suis italienne, donc ma langue maternelle est l'italien. Moi, j'étudiais l'anglais. Je parle aussi un peu de français ici. Oui, j'étudie en français. Je parle allemand. J'étudiais le russe. Je parle l'espagnol et j'étudie aussi le portugais. Moi, j'aime les langues, généralement toutes les langues, mais ma préférée, c'est l'allemand. J'aime le son de l'allemand. Toute personne me dit que c'est étrange que l'allemand me plaît si trop. Mais l'allemand, c'est ma langue préférée totalement. Mais aussi le français, la prononciation et les nasales du français sont très intéressants. Mais aussi ma langue, l'italien. Et l'anglais, c'était doux, c'était intéressant pour moi.
Moi, je compte apprendre l'arabe, du coup, plus en détail, et le coréen aussi. Et aussi, dans ma vie, j'aimerais apprendre le chinois, le japonais, l'espagnol couramment, puisque je parle à niveau intermédiaire. Et bon, plein de langues, j'aime toutes les langues.
Moi, je mets que les langues sont ma chose, donc dans ce moment, je suis en train de m'améliorer mon français parce que je suis en train d'étudier le français, en français ici à Paris 8. Mon plan, c'est de pas étudier les langues, non, mais de les utiliser afin de faire choses, d'être actif dans mon monde. Et l'arabe reste une langue que moi, j'admire beaucoup. Et ce atelier m'a ouvert un peu plus mon monde dans le sens que moi je suis intéressée à l'arabe. Je sais que je ne suis pas capable dans le moment, mais peut-être en futur je m'ouvrirai à cette langue et à ce monde qui est une culture magnifique.
Katia Hamdani, j'insiste sur le ha puisque c'est une journée, la journée internationale des langues maternelles. Le ha est souvent muet en langue française, donc aujourd'hui je suis bien contente d'avoir l'occasion de bien accentuer sur la lettre ha. J'ai eu le grand plaisir en fait d'animer un atelier de découverte de la langue arabe justement à l'occasion de cette belle journée internationale des langues maternelles au sein de la bibliothèque de l'université Paris 8. Pour l'arabe dialectal, j'aime beaucoup Nharak Mabrouk qui veut dire béni ta journée ou ta journée est bénie ou plutôt célébrer. C'est pas béni mais c'est célébrer. C'est célébrer ta journée. Voilà. J'aime beaucoup cette expression qui est Nharak Mabrouk qui est une phrase du dialecte en tout cas algérien. Voilà. Et, sinon, C'est al-mar'a qui veut dire femme. Moi, je suis pas contente du tout de du sort de la femme moderne. Al-mar'a en arabe qui veut dire en fait, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, chaque mot a plusieurs sens et plusieurs significations. Il y a un sens dans la matière, il y a un sens au niveau symbolique, archétypal, et il y a un sens au niveau métaphysique, et il y a différents sens. Si on regarde sur le Kazimierski, on verra que le mot mar'a veut dire beaucoup de choses. Il y a trois choses, en tout cas, moi, qui me parlent beaucoup. C'est mar'a qui veut dire le concret, qui veut dire aussi le fondement, et qui veut dire aussi l'âme. Donc, honneur aux langues maternelles et honneur aux femmes.
Dans les textes que j'ai fait pour ces volumes, bon, que j'ai dirigés, dans lesquels j'ai écrit « Hypothèse d'une langue mère », j'évoquais, par exemple, le parcours d'Elias Canetti, qui a vécu dans une famille où on parlait plusieurs langues. C'était des familles juives très, très, très larges, très importantes. Alors, on lui parlait une sorte d'espagnol, et puis du yiddish, et puis on parlait en allemand parce que ses parents lui parlaient allemand. Ensuite, elle est allée en Angleterre et ses parents ont voulu qu'il apprenne l'anglais. Et finalement, il a écrit en allemand, ce qui n'est pas la langue de... Donc, comment quelqu'un qui a eu toutes ces sonorités, même le roumain qui était une langue qu'ensuite il a abandonnée, bon, hein, au moment d'écrire, bon, c'est cette langue-là qui s'est imposée. Est-ce que dans ce cas-là, on peut parler des langues maternelles, lorsqu'il y a plusieurs langues, et qui ont évidemment des valeurs et des valeurs affectives différentes, Et puis, dans quel contexte historique, encore une fois, qu'est-ce qui décide finalement que c'est cette langue plutôt qu'une autre? Pour ce qui me concerne, j'écris en français aussi bien qu'en italien. Et l'année dernière, par exemple, je me suis fait cette remarque. Bon, j'ai passé une bonne partie de mes vacances en Italie et j'ai éprouvé un plaisir presque physique à parler et à être donc avec d'autres amies italiennes. Alors je me dis, oui, quand même la langue maternelle est là, c'est-à-dire est là dans quelque chose qui est dans le cœur, qui est dans la construction de sonorité, dans ce qui va d'amitié, d'entente. Je voudrais bien écrire tel ou tel livre, mais je devrais trancher entre l'italien et le français. Comment choisir? Il y a un texte qui est très beau, de Cardi B, Amour bilingue. Oui, l'amour c'est de deux côtés. C'est pas d'un côté c'est l'amour et de l'autre c'est... Non.
La semaine des langues maternelles à la BU de Paris 8, c'est une semaine qui a été organisée pour promouvoir les langues maternelles des usagers et puis en règle générale.
Eva, médiatrice linguistique à la bibliothèque de Paris 8.
Ça se traduit par des événements. Par exemple, on a proposé cette année des ateliers de découverte en arabe, en langue chinoise, en mandarin et aussi en japonais. Des berceuses qui ont été enregistrées par une étudiante dans le master de création sonore et musicale, Shiwo, donc une étudiante de Paris 8, qui a récolté des berceuses chantées par des personnes dans leur langue maternelle. Et ensuite, elle les a montées, elle a créé toute une ambiance sonore autour de ces berceuses-là, qui ont été ensuite diffusées. Et son projet s'appelle « À la recherche des rêves perdus ». Donc ça a été diffusé avec un concert aussi de musique classique qui reprenait des berceuses à la guitare. Et un concert aussi de création de musique contemporaine. Oh.
Ah, 자장 우리 아가 잘도 잔다 우리 아가 자장 자장 우리 아가 잘도 잔다 우리 아가 꼬꼬다가 울지 마라 우리 아기 잠을 잔다 검둥개야
지치 Je voulais utiliser la musique de Perseus un peu autrement.
Shiwol Minkyungu, étudiante de Master 2 en création musicale et sonore à l'Université de Paris 8.
Parce que la musique peut être une annonce de séparation en fait, pour faire voyager les enfants tout seuls. Donc je pense que la Perseus, ça peut être une musique pour encourager à rêver. Et je pensais ça, en fait, il y avait une période pour moi, une période où je restais longtemps à la bibliothèque universitaire. Ce n'était pas Paris 8, c'était autre université. Et en tout cas, j'étais tout le temps là, je dors là, très souvent. Parce que chaque fois, je mange, je dors un peu, 30 minutes ou une heure. Et puis, je travaille là-bas. Et chaque fois, je me sentais un peu dure, difficile. Je réfléchis un peu sur mon rêve. Donc, je voulais jouer la Perseus dans la bibliothèque universitaire pour encourager à rêver pour les autres étudiants. Et comme je suis aussi étudiante étrangère, je pensais que parce que la langue française, c'est pour moi, c'est très difficile. Et j'ai imaginé si j'écoute la langue coréenne et dans un lieu inattendu, ça pourrait me donner une surprise agréable. Et si c'était une personne coréenne, comme je dors souvent à la bibliothèque, ce serait marrant. Donc j'ai pensé un peu, j'ai développé un peu en réfléchissant à toutes ces choses-là. Ici, c'est un lieu où on pense que la langue française, ça c'est, comment dire, c'est normal. On utilise le français parce qu'on est en France, ça c'est normal. Mais comme j'ai beaucoup de problèmes de la langue, donc je voulais pas mettre en valeur. Mais justement, je voulais, comme ça, je peux avoir un courage, simplement.
C'est super hein, ce qu'il a fait. Le monde de l'enfance est très musical, puisque c'est avant la langue, avant la pensée rationnelle. Donc il y a une forme de musicalité intrinsèque. Là, je trouve que l'idée était très belle. Prendre des berceuses dans des langues variées, utiliser des sons qui les environnent, et puis intégrer doucement la musique, et puis finir avec une improvisation libre. C'est magnifique comme projet, je trouve. Ça a à voir avec l'écologie, l'environnement. On quitte un peu cette musique un peu sèche, de concert. Est-ce que la musique est une langue? Certains disent oui, moi je pense que non. Si c'était une langue, ce serait une langue maternelle, qui n'est pas complètement une langue. Enfin, c'est une langue, mais c'est quelque chose de particulier. C'est un lien physique aussi, voilà. C'est la musique n'est pas que langue parce qu'elle est liée à l'environnement, au physique, au mental, etc. Donc Rousseau pensait justement la musique comme avant la langue, donc proche de la langue maternelle, on va dire.
Et à propos de la chanson que toi tu as chantée, tu peux nous en parler?
Ah oui, ça c'est toute une histoire. D'abord, à mon avis, à ma connaissance, c'est l'unique fois où on a une berceuse qui a été composée par un compositeur moderne qui ne vient pas d'un fond traditionnel. C'est le compositeur grec Mikis Theodorakis, très connu pour ses chansons politiques. Et moi, elle m'a été transmise dans ma famille par ma mère. Et Theodorakis s'était beaucoup joué dans les milieux de gauche. Voilà, on le connaissait comme ça. Et puis, quand j'ai découvert que c'est lui qui avait fait une berceuse, c'était très étonnant. Et je l'ai transmis à ma fille d'une manière naturelle, donc peut-être qu'elle le transmettra à sa manière.
Un petit frère l'amour, la belle aux mille oiseaux, diffige à la comme l'yé maou. Un petit frère l'amour, la belle aux mille oiseaux, diffige à la comme l'yé maou. Dodo, ti baba, sa histoire maman avec son papa. Dodo, ti baba, sa histoire maman avec son papa.
Mes deux langues maternelles sont le créole et le français, parce que je viens des îles, de la Martinique. Souvent, ma mère me dit comme phrase en créole, « Ah, ma fille, il faut qu'on y courage. » Donc, ce qui veut dire en français, ma fille, il faut avoir beaucoup de courage dans la vie. Donc, elle me répète toujours cette phrase, et cette phrase, j'aime beaucoup cette expression. Ça reflète la femme forte, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut avancer dans la vie, il faut être très courageux.
Votre attention, s'il vous plaît. L'atelier de découverte de la langue japonaise animé par la Maison des langues et des cultures d'Aubervilliers, proposé dans le cadre de la Semaine des langues, commence dans 3 minutes en salle de la recherche.
Il y a deux syllabaires. Ensuite, ça c'est les hiragana et vous avez les katakana qui sont faits de la même manière. Exactement. Aiyueo comme ça et akasatana hamayarawa. Donc on en apprend deux dans la foulée. Voilà.
Je m'appelle Léo, j'ai 31 ans. Je suis traducteur indépendant et je pratique la langue japonaise depuis que je suis tout petit. Mon père est japonais, ma mère est française. Et aujourd'hui, voilà, je travaille entre les deux langues, entre deux pays qui ont besoin de traducteurs-interprètes pour se comprendre et qui ont une curiosité assez, l'un envers l'autre assez prononcée.
Est-ce que vous avez des expressions préférées en japonais, des mots préférés ou des expressions idiomatiques que vous voulez partager avec nous ?
Il y a des expressions en japonais qui sont passées dans la langue française comme ça, sans plus de cérémonie. On connaît bien le « Omae wa mo shindeiru » de Ken le survivant. Voilà, ça veut dire tu es déjà mort mais tu ne le sais pas. Bon, il y a un truc un peu brutal et un petit peu comique à la fois.
Doucement. Doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, doucement, à pas de velours. La renette dit sa chanson de nuit. Et le lièvre frit sans un bruit.
C'est quoi ton expression ou tes mots préférés
en vietnamien? Alors, c'est Yaya Doug Doug. Ça nous fait mourir de rire avec nos frères et sœurs, parce qu'il s'avère que c'est ce que notre père disait au téléphone. Ça a une fonction fatigue de continuer la conversation avec notre mamie. Donc, il faisait semblant de l'écouter. Il lui disait Yaya Doug Doug. Et nous, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire jusqu'au jour où on a compris que ça voulait dire oui, oui, bien sûr. Il n'en avait rien à faire, mais qu'il continuait quand même à l'écouter. Donc elle lui racontait toute sa vie, et puis lui, voilà, il répondait à demi-mot pour pouvoir continuer la conversation. Il y a aussi Ancom. Ancom, c'est super important, c'est viens manger à table. Et en fait, de façon littérale, ça veut dire manger le riz. Donc c'est l'un des nos mots préférés, parce qu'on va manger, évidemment. Et il y a un terme que, a posteriori, j'ai appris, qui est le terme pour désigner l'opéra populaire que notre mamie écoutait. Et c'est le Kailung, voilà. Et je suis devenue fan du Kailung a posteriori du décès de ma mamie. Et c'est un terme qui m'est cher, du coup. Parce que c'est ça qu'elle écoutait.
Papagayo loiru, tubique dorado, leva meste carta, homme o namorado. Ele não é frade, nem homme casado, era pas solteiro, lindo como prado.
Une expression que j'aime beaucoup, qui est l'équivalent de « on n'est pas là pour enfiler les perles ». Et l'expression, c'est « eonoshtoka para hinchar o chorizo. Ça veut dire je suis pas là pour fourrer les chorizos. Je suis pas venue pour ça. Et ça me fait beaucoup rire parce que c'est les chorizos, enfin voilà, c'est vrai, la saucisse portugaise, c'est quelque chose d'extrêmement populaire. Et ça fait redescendre tout le monde d'un cran. Donc voilà, c'est une expression, j'aimerais bien la voir traduire dans le langage français, un de ces quatre.
Alors, une expression que j'aime bien en turc, c'est « açayı oynamaz ». Ça veut dire que l'ours qui a faim ne danse pas. Voilà, ce qui signifie qu'il faut se donner les moyens d'arriver quelque part, qu'il faut nourrir l'ours si on veut le faire travailler ou danser.
Кот кусиренький, кот маленький, котку вологатий, не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буде дитяти, дитя буде спати, котик воркотати, ой на кота воркота, на дитину дрімота. Ой, ну, люлі, котку, не йди на колодку, не йди на колодку, бо заб'єш головку, та буде боліти, нічим завертіти. Ой, на кота, воркота, на дитинку дрімота.
Pour moi, c'est très important de dire bonjour le matin. Alors, en cantonais, c'est « Nihao » et en mandarin, c'est « Nihao ». Et après, dans la journée, bah, merci aussi, c'est très important. Pour moi, c'est la politesse, donc d'après un service ou bien, voilà. Donc, merci en cantonais, c'est « Tantie » et en mandarin, c'est « Cécié ». Voilà, enfin, les mots les plus importants pour moi, enfin, pour débuter la journée, c'est vraiment ça. Voilà, pour donner déjà une bonne humeur dans la journée, et puis voilà.
Donc, soit on va dire soit le bambara ou soit djula. Ça veut dire deux, c'est la même chose. Moi, ce que j'aime bien chez moi, c'est le matin quand tu te réveilles, tu n'as pas le droit de parler ni à tes parents ni à qui que ce soit. Tu vas là d'abord. Fais tes toilettes, laver la bouche, tout ça, avant de dire bonjour. Donc, bonjour, ça veut dire anusoroma. Donc, à partir de là, ils te font des bénédictions, tout ça, et avant de commencer ta journée. Ça, j'aime bien et c'est quelque chose qui me manque énormément. Quand c'est plusieurs personnes, quand c'est des parents, c'est anusoroma, quand il y a plusieurs personnes. Et quand c'est une personne, c'est inusoroma. Voilà.
Duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Duérmase mi niño, duérmaseme ya, si no viene el coco y te comerá.
En fait, ma langue maternelle c'est l'espagnol, mais j'ai grandi aussi en catalan. Alors ça fait que il n'y a pas vraiment une langue qui tranche sur l'autre, bien que chez moi on parle toujours espagnol, mais les catalans sont toujours là aussi. Ils s'entremêlent aux expressions aussi chéries, parmi lesquelles « deunido », c'est l'expression que j'ai choisie, puisque il n'y a pas façon de la traduire. On peut l'utiliser un peu partout et n'importe où. Et surtout, aussi, c'est une expression qui, dès le moment où on commence à l'utiliser, on ne s'arrête jamais, en fait. On peut dire « de unido, de unido, de unido », et ça signifie tout et n'importe quoi, mais selon la façon dont on l'utilise, ça peut dire aussi des choses très différentes. Et c'est une expression en catalan. C'est pas une expression espagnole. Et comment je les traduirais? Et... On peut dire une sorte de « dis donc ». Mais c'est aussi « tiens ». C'est aussi « merde ». C'est aussi « putain ». C'est un peu tout ça. Et aussi, je voulais rajouter que c'est ce qui me manque quand je ne parle pas espagnol ou quand je ne parle pas catalan, c'est surtout quand je parle français, c'est la possibilité de miniaturiser les choses, les mots, de faire des diminutifs en fait. Parce qu'en espagnol et en catalan, on utilise beaucoup les diminutifs, beaucoup aussi, un peu partout et n'importe où. Et en français, apparemment, ce n'est pas aussi simple que ça, de les emprunter et de les moduler aussi.
César roi, César roi, fossi minia. Il mandava ladrillion. Con pedrinhas de brilhantes. Para o meu amor passar. Nessa rua tem bosque que se chama solidão. Dentro dele mora anjo que roubou meu coração. Se roubei teu coração. Tu roubaste o meu também. Se roubei teu coração. É porque te quero bem.
Ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien. Je viens de la campagne brésilienne, du coup j'ai un accent un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre de Rio, de São Paulo. Alors l'expression qui m'est venue en tête en premier, c'était une expression que me disait beaucoup ma mère quand j'étais petite, c'est « Você não é Ave Maria, mas está cheia de graça ». Du coup ça veut dire « Tu n'es pas Marie, mais tu es pleine de grâce quand on aime ». Un petit vilain, un petit peu vilain, on est malicieux. Et je ne sais pas si ça traduit bien en français, mais voilà.
Dans mon expérience, je n'ai pas essayé d'effacer. J'ai simplement intégré une autre langue avec tout ce que ça allait, son, corps, sensations, rencontres. Mais je n'ai pas pour autant effacé de ma mémoire corporelle, subjective, tout ce qui était, qui allait avec la langue italienne dans laquelle j'ai grandi. Ce n'est pas un substitut, ça s'ajoute, mais il y a quand même une certaine perte. Moi, cette perte, je l'ai eue avec les dialectes, hein, mais quand j'ai appris l'italien, c'est comme si j'avais en quelque sorte dû mettre de côté ce qui était la langue familiale. Et que, évidemment, à l'école, est interdit d'avoir une autre langue que la langue de la nation, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est toujours très, très complexe et qui n'est pas sans deuil. Hein? Il y a du deuil, quelque part. Même si on peut revenir au passer les frontières, comme moi je peux faire, évidemment, avec l'Italie, il y a toujours quelque part qui s'est perdu, hein, il faut le savoir. Pour moi, ça n'avait été dramatique. Pour d'autres, évidemment, c'est bien plus dramatique parce que c'est marqué par une séparation, par l'exil.
Moi, je m'appelle Myriam Lafargue, je suis responsable du pôle littérature à la médiathèque Persépolis de Saint-Ouen et je coordonne le groupe service au niveau du réseau des médiathèques de pleine commune. Donc c'est un groupe qui a vocation à développer notamment des actions autour des langues, de leur valorisation et de leur apprentissage. La semaine des langues maternelles, en fait, on l'organise depuis 2020. L'idée, c'était vraiment de promouvoir la diversité linguistique du territoire et de valoriser les compétences des gens, en fait, qui passent d'une position où généralement, c'est une position d'apprenant pour certains, notamment pour les publics allophones qui viennent d'arriver sur le territoire, donc qui passent de cette position d'apprenant à une position de sachant, et de permettre aussi, du coup, les rencontres, la découverte, le jeu autour des langues. En 2020, on était plus sur une programmation où on valorisait déjà toutes les actions qu'on mettait en place, notamment des ateliers de conversation, des actions autour de contes bilingues, etc. Et au fur et à mesure, on a développé une programmation vraiment plus dynamique, avec beaucoup donc, de spectacles qui peuvent être multilingues, mais qui peuvent aussi réinterroger le rapport qu'on peut avoir à sa propre langue. Ça peut être aussi des langues imaginaires. Qu'est-ce que c'est que d'être locuteur d'une langue? Et comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres? Quelle histoire on a derrière une langue? On va développer aussi des ateliers autour de la langue des signes. On va mettre en place des ateliers de récolte de chants, des ateliers de découverte avec des jeux comme la mallette Fabulala qui permet justement de faire des lectures auprès des tout-petits en plusieurs langues. Il y a toute une pléthore d'actions avec intervenants qu'on a mis en place cette année. Et à côté de ça, on a aussi développé des actions qui étaient portées par les bibliothécaires. Donc ça pouvait être des actions style lecture multilingue à plusieurs voix, portées aussi par les habitants. Ça va être des ateliers jeux, des karaokés multilingues, des blind tests, ça va être des quiz musicaux, des ateliers numériques, on va travailler avec les centres de loisirs, les acteurs sociaux, les acteurs du territoire, à la fois institutionnels et associatifs.
Ce que je vous propose, c'est un blind test autour des comptines du monde. Un blind test, c'est quoi ?
L'Afrique.
Et d'autres continents, on va voyager.
Le Maroc.
Le Maroc, c'est pas un continent.
C'est un pays.
C'est un pays.
Mais trompé. Bah oui, mais l'Afrique, c'est un continent.
L'Amérique.
Qu'est-ce que c'est un blind test?
C'est un quiz.
C'est un quiz de quoi?
De quoi?
Des sons.
Des continents.
Des.
Musique.
Exactement. Un quiz de musique.
Kabilé.
Monsieur.
Ça, 8 points.
C'est trop facile.
Idiot.
C'est trop facile là.
J'adore. La belle
chanson. Vous connaissez cette chanson? Ouais. À part monsieur.
Un peu. Pardon.
Toujours simple, sinon c'est pas drôle. Oui, ça se parle en Afrique. Et du coup, si je vous dis comme proposition, NGO, yes ou sing.
Que
c'est
NGO.
NGO. Très bien. Le pays qu'on cherche commence par un E.
Égypte.
Non,
c'est pas l'Égypte. L'Égypte, c'est un
Arabe.
On peut là.
Comment?
Éthiopie.
Comment?
Éthiopie.
La Marie. Vous avez vu, on a voyagé. Hein.
Non, mais c'est, franchement, c'est intéressant.
Ça, c'est très simple.
Oh, ça,
Algérien.
Algérie.
Rachida.
Rachida.
Je connais même le titre.
Ça,
c'est... Ouais, tu peux chanter
mais c'est pas...
Non. Allez.
Mais c'est pas...
Allez, chante un peu.
Non.
États-Unis. Nous on a dit États-Unis. C'est la Corée.
Ouais.
Franchement, j'aurais pas
fait. Ouais.
Allez, plus un quart d'avantage, je vais vous voir. C'est un gros
coup.
Non, non, t'es pas italien.
Alors, la capitale, ça s'appelle Luanda.
Luanda.
Oh, ah. Angola.
L'Angola, très bien, Julien.
Je suis trop fort, je viens d'arriver et je mets tous ces points-là.
Merci à tous pour votre participation, c'était super.
Merci à toutes les participantes et participants de nous avoir invités à découvrir leur langue maternelle et celle qui attise leur curiosité. Merci également à Shiwal Minkungu de nous avoir permis d'utiliser sa création musicale pour ce podcast. Et enfin, merci à Nadia Setti de nous avoir accordé de son temps. Cette émission a été enregistrée et réalisée par la Bibliothèque universitaire avec le soutien du service communication de l'Université Paris 8.